Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse, cinquième numéro pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue. La décentralisation positive du rôle central de l'élu local au Togo, c'est le titre d'un ouvrage qui questionne les principes fondamentaux de la décentralisation au Togo avec des analyses bien profondes. Ouvrage de 140 pages. Il est écrit par Dr. Kountan Siangou, conseiller à la présidence de la République, secrétaire technique de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales, FAC, et secrétaire exécutif de la Fêtière des communes du Togo, FCT. À travers cet outil de décentralisation, l'auteur apporte une contribution significative au processus en mettant en valeur l'impact de la bonne gouvernance locale sur les populations. Selon l'auteur, la décentralisation n'est pas un simple transfert de compétences, mais un véritable socle de développement et de démocratie. La dédicace de l'ouvrage a réuni hier des maires, des conseillers municipaux et des acteurs de la décentralisation. Quel regard portez-vous sur la décentralisation au Togo et quels sont les défis à relever? Nous poserons cette question à Pascal Agbouvé, expert et formateur en décentralisation et développement local. Il est en studio avec nous. Pascal Agbouvé, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien par la grâce de Dieu.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 11 avril 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Ousso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga, près de Niamtougou et puis Radio Kouktoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, vous avez le privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio, aussi des invités. Et confrères journalistes en studio, c'est bien Firmé Teko Agbo. Bonjour Firmé.
Bonjour Pascal Ousso, merci de m'avoir invité.
J'espère que vous allez bien.
Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Sa grâce nous est suffisante et nous sera toujours suffisante.
Et la semaine, ça s'est bien passé?
Oui, ça s'est bien passé, mais bien passé. Vous savez, au niveau de notre centre de recherche, il y a un peu de mouvement. Et bon, je voudrais l'annoncer, nous venons aussi d'avoir une petite représentation en Europe. Nous avons un Togolais là-bas qui va représenter le centre pour nous. Il s'appelle Kani Koko Loko, qui va représenter le centre pour nous. Parce que notre ambition, c'est de faire rayonner le Togo de par le monde. Ici, nous avons appris quelque chose de la vie d'Yadema. On nous a dit que Yadema, malgré tout, quoi qu'on puisse lui reprocher, il faisait tout pour que le Togo rayonne, brille de par le monde. Et notre ambition, c'est que nous organisons des conférences ici et nous organisons des conférences à l'international pour faire briller le Togo, dire aux gens que le Togo, c'est un beau pays. Le Togo, c'est un endroit où il faut faire bon vivre. Vous pouvez venir investir dans notre pays, voir les résultats que nous présentons. C'est notre ambition fondamentale. Donc, nous avons eu à travailler par rapport à ça toute la semaine. Et nous prévoyons aussi organiser d'autres conférences, que ce soit dans les universités privées et dans d'autres localités du pays. D'accord. Et surtout, par rapport à la citoyenneté et aux nouvelles institutions de la Ve République. Pour conclure, à ce niveau, nous nous posons toujours cette question, est-ce que nous pourrons mettre en place toutes les institutions de la Ve République avant le 5 mai? Parce que vous savez que nous n'avons pas encore le président du Conseil officiellement établi, nous n'avons pas encore la présidence de la République, nous n'avons pas encore le protecteur du citoyen. Il y a un certain nombre d'institutions qu'il faut mettre en place avant le 5 mai. Notre question, est-ce que nous pourrions respecter cet article 95 de la Constitution? Parce que si nous sortons un peu de cet article, ça veut dire que cela peut être la première violation de la nouvelle Constitution du 6 mai 2025.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Gabé Ndiaro, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à mes chers amis au plateau. Merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste et aussi observateur ou analyste alors politique. Et vous intervenez bien sûr dans cette émission pour porter votre analyse alors sur des sujets liés à l'actualité. Merci d'avoir accepté. Merci d'être toujours constant dans votre développement dans cette émission. Alors, Pascal Agbouvé, rebonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vrai, nous voudrons bien sûr parler de la décentralisation parce que on sait que déjà le premier mandat des élus locaux, et je veux bien parler alors des maires, puisque leur élection, l'élection municipale a eu lieu déjà en 2019 et le premier mandat de 6 ans s'achève ainsi et on se prépare même d'ailleurs à aller aux urnes pour les prochaines municipales. Mais j'en parlais tout de suite par rapport même à cet ouvrage qui vient de sortir, et cet ouvrage alors de Dr Kumtan Siangou qui est intitulé « La décentralisation positive du rôle central de l'élu local au Togo ». Alors, Pascal Agbouvé, d'abord, moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle pas la décentralisation positive?
Je pense que l'auteur voudrait dire juste une décentralisation qui est bénéfique à la population. Il ne faut pas juste faire la décentralisation politique en mettant en place des structures qui n'ont pas un impact sur la population. D'abord, l'objectif premier de la décentralisation, c'est d'accélérer le développement local. Et donc, les actions des élus locaux doivent avoir un impact significatif sur les citoyens. Et d'où la nécessité de promouvoir un leadership au niveau des élus locaux afin que leurs actions puissent prendre en compte les vraies préoccupations des citoyens de manière à ce que les objectifs de la décentralisation assignés par le pouvoir central soient atteints. Donc voilà un peu ce que je peux comprendre par rapport à la décentralisation positive.
Aujourd'hui, quel est le regard que vous avez ou que vous portez sur la décentralisation amorcée depuis pratiquement 6 ans il y a de cela au Togo?
D'abord, je tiens à féliciter les autorités togolaises d'avoir opérationnalisé cette politique de décentralisation, comme je le disais tantôt, qui vise vraiment à aider l'État à prendre en compte les vraies aspirations des citoyens à la base. Et donc, après 6 ans presque de gestion des affaires locales, nous pouvons quand même saluer des avancées réalisées par certains élus. Mais de manière globale, on peut conclure quand même que les attentes des citoyens sont très grandes. Et cela se comprend aussi, naturellement, puisque nous sommes au début du processus. De deux, les collectivités territoriales, du moins c'est les communes, n'ont pas assez de moyens pour réaliser leur programme. Et autre chose, il faudrait que le transfert même soit effectif, accompagné des ressources
pour que des ressources adéquates.
Des ressources au niveau de l'État pour que les élus locaux puissent faire leur travail. On a remarqué aussi qu'il y a une faible participation citoyenne. C'est-à-dire des citoyens n'ont pas compris le fond de la décentralisation. Donc, ils ont laissé les affaires évoluer comme la gestion du pouvoir central. Alors que nous devons nous impliquer dans la gestion des affaires locales. Parce que les élus locaux sont nos mandataires et nous devons suivre ce qu'ils font. Nous devons apporter notre contribution. Nous devons les interpeller régulièrement. Nous devons aussi travailler, apporter notre contribution financière en termes de paiement des taxes et impôts. Également sur la gestion qui est faite de nos ressources mobilisées. Et là, on a remarqué que les citoyens sont restés à l'écart. Ils attendaient juste d'avoir des résultats. Ça ne pouvait pas être possible. Parce que la gestion locale nécessite quand même une implication de l'ensemble des acteurs qui animent la vie du territoire pour que les élus locaux puissent quand même savoir que tout ce qu'ils font, ils sont suivis par les citoyens et que les citoyens sont prêts à les interpeller ou bien sont prêts aussi à les accompagner s'il le faut pour que les besoins locaux soient pris en compte dans leur politique et également gestion quotidienne. Donc, de manière aussi, il y a un aspect aussi que je voudrais souligner, l'aspect positif que nous pouvons aussi remarquer aujourd'hui, c'est le rapprochement, c'est la proximité des administrations locales. Aujourd'hui, pour certifier vos actes ou bien pour légaliser vos papiers, pour célébrer le mariage, il y a des administrations qui sont installées sur l'ensemble du territoire. Donc les
et qui sont si proches des citoyens.
Qui sont proches des citoyens. Donc les citoyens ne souffrent plus pour avoir accès à ces services d'état civil. Ça, c'est vraiment c'est une très bonne chose. Maintenant, l'autre aspect sur lequel les élus n'ont pas suffisamment travaillé, c'est le volet développement local. Parce que pour le volet développement local, il y a deux aspects importants. Il faut d'abord avoir l'expertise. Deux, il faut avoir des ressources. Et là, nous avons remarqué que la plupart des élus locaux ont plus des compétences sur le plan politique, mais certains n'ont pas l'expertise en matière de développement local. Donc ça, c'est un aspect que nous devons prendre en compte. Également, ils n'ont pas assez de ressources. Et même les ressources qui sont mobilisées ne sont pas bien orientées. Vous savez, et ils sont au début de leur mandat et on n'a pas réglé tous les problèmes de la commune en un seul mandat. Ils auraient pu faire un choix stratégique pour dire, d'accord, nous sommes arrivés pour la première fois, il y a assez de besoins dans la commune, mais pour notre mandat, nous allons travailler seulement sur certains axes pour produire de l'impact. Parce que s'ils veulent prendre les problèmes de manière globale, ici, ils ne pourront pas vraiment régler tous les problèmes pour le premier mandat. On ne réglera pas tous les problèmes aussi deux mandats, trois mandats, parce que le développement, c'est un processus. Et donc, il aurait fallu que les élus puissent faire un choix stratégique au départ pour savoir comment orienter les ressources en fonction des besoins prioritaires. Et l'économie locale devait être prise en compte dans un premier temps. Parce que vous ne pouvez pas faire le développement sans l'économie. Il y a assez de problèmes sociaux à régler, mais c'est l'économie qui permet de créer de la richesse pour pouvoir régler ces problèmes sociaux. Donc, ils n'ont pas pu faire un bon choix aussi, donc les ressources ont été mal utilisées. Du coup, les citoyens n'ont pas pu bénéficier de l'impact de cette gestion locale. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'on devait prendre en compte. C'est pour cette raison que le rôle de l'élu local est au centre du développement local. Parce que si l'élu ne sait pas comment prendre des décisions, comment orienter les actions, comment mobiliser les citoyens, comment bien gérer les ressources des contribuables pour pouvoir produire de l'impact, c'est qu'on va passer plusieurs années, mais on n'aura pas de l'impact. Donc, ça, c'est un élément important à prendre en compte dans ce qui se passe actuellement.
D'accord. Oui, mais Gabin, c'est vrai, ce que Pascal évoque est très important, c'est-à-dire à un moment donné, il semble que les besoins sont déjà énormes, les défis sont énormes, de telle enseigne que finalement on veut embrasser tous les défis en même temps, tandis qu'il faut juste alors spécifier alors ces défis et arriver à travailler, à régler cela un à un. Mais finalement, on a compris que on veut embrasser tout.
Oui, on veut embrasser tout. Et je tiens premièrement à féliciter Pascal Douagbouvé pendant pratiquement ces 6 ans pour le travail, 6 ans et plus, hein, pour le travail qu'il a bas sur le terrain, parce que véritablement, c'est quelqu'un qui s'est mis dans sa tête en tant que citoyen pour pouvoir sensibiliser sur les besoins de cette décentralisation et surtout le rôle des élus locaux, des conseils municipaux et surtout le rôle aussi des populations à accompagner véritablement ces élus locaux là vers un certain développement. Donc, sincèrement, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait. Si les communes, hein, surtout les conseils municipaux, essaient quand même de mettre en pratique les conseils qu'il a eu à donner, surtout les formations qu'il a eu à faire pendant toute cette période-là, je pense qu'aujourd'hui, on n'assisterait pas à une gestion hasardeuse de ces communes-là, de la part des élus locaux. Maintenant, au niveau stratégique, il vient d'amorcer cette question-là, c'est très important, parce que quand on a eu à faire assez d'années dans la délégation spéciale, quand on commence une décentralisation, il faut poser les jalons de cette décentralisation-là pour que même après 2 mandats, après 3 mandats, on puisse toujours marcher sur cette stratégie pour aller vers un développement harmonieux. Mais aujourd'hui, les maires viennent véritablement, j'ai l'impression que les gens se perdent. Ils se perdent, on embrasse ceci, on dit qu'ils trop embrassent mal étreint. Ils amorcent un projet, après ils délaissent, ils amorcent un autre projet, après ils délaissent. Véritablement, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et qui parle d'argent aussi, qui parle de développement, parle aussi d'argent. Est-ce que ces communes-là ils ont les moyens nécessaires pour pouvoir développer tous les projets qu'il faut. Raison pour laquelle il faut mettre en place véritablement un comité qui réfléchit à aider les communes à pouvoir faire un véritable plan de développement stratégique dans les communes. Peut-être un maire ne peut pas être élu demain dans la même commune, mais il faudrait que le plan qu'il a eu est élaboré dès le début, même quand un autre maire va venir ou quand d'autres conseillers municipaux vont venir, ils vont pouvoir marcher sur ce plan-là puisque l'État est une continuité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce plan stratégique-là qui a été développé par les communes? C'est vrai, il y a eu à faire des élections municipales, il y a eu des gens qui ont élu, mais est-ce que ce sont tous ces gens-là qui maîtrisent la matière de la décentralisation? Non, la plupart, ce sont des politiques qui ont été mises à cette place-là, ils n'ont pas eu la formation dans la décentralisation. Maintenant, dans les normes, on aurait pu mettre une stratégie en place, hein, comme la formation des formateurs, ainsi de suite. Et la structure de M. Agbové pourrait aider à former les conseillers municipaux et surtout à leur dire le rôle qui est le leur. Mais aujourd'hui, on est en train de patauger. Il y a certains maires qui ont tant bien que mal réussi par les maigres moyens à mettre en place certaines choses. Il y a eu des urgences dans certaines communes. Hein. Je prends un exemple, Golf 4, parce que c'est une commune que, bon, moi j'ai eu, j'ai eu à circuler dans la commune et lui a posé des questions directement aux dirigeants. Et ils ont présenté un plan bien détaillé. Et aussi, ils ont eu à dire tout ce qu'ils ont eu à faire.
Mais c'est vrai que pratiquement toutes les communes ont un plan, c'est-à-dire le plan de développement communal qu'ils élaborent.
Mais dans ce plan de développement communal, là, il y a des urgences. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qui urge maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on espère pour notre commune? Ce sont des choses qui sont assez importantes pour que, bon, on puisse arriver à un développement harmonieux. Mais malheureusement, je peux dire 90% ou bien 95% des communes aujourd'hui, ils ont lamentablement échoué par rapport à ce processus-là, par rapport à la propreté aussi des communes. C'est compliqué. C'est compliqué. Et là, les responsabilités sont partagées. Et quand tu prends Bekpe, nous, en allant, ce n'est pas en 6 ans, que le maire Gomado va pouvoir résoudre ce problème-là. Parce que ce problème existait depuis belle lurette. Une petite pluie et puis une fiata jusque-là, c'est inondé. C'est des trucs verdâtres un peu, les rigoles qui sont bouchées un peu partout. Donc là aussi, c'est pas la faute au maire, puisque parfois, on désagorge les caniveaux, mais 2-3 jours après, tu vois encore les gens venir jeter des ordures dans ce genre de truc ou bien aux abords des caniveaux, ce qui fait que vraiment c'est très compliqué. On vient d'amorcer quand même ce processus-là. Bon, je pense que c'est le début, mais les erreurs qu'on a eu à déjà commettre depuis le début, on ne doit pas commettre ces erreurs-là.
Merci.
Dans le deuxième mandat des communes. Merci. Et pour associer les structures telles que l'IJD de M. Agbové.
Merci, Gabin. Merci, Gabin. Oui, Firmin, oui, c'est vrai que beaucoup des gens auraient aimé voir aussi les maires sur le plan de l'assainissement, mais il semble que on n'a pas eu tellement d'impact en matière d'assainissement.
Oui, parce que tout d'abord, sous votre autorité, je viens de vous dire que nous avons cette semaine notre centre à représentation en Europe, précisément à Berlin, et c'est dirigé par le coordonnateur Kanyi Kokoloko. Donc il est en train de nous suivre actuellement et il me dit que l'émission Club de la Presse lui apporte beaucoup en termes d'informations sur le Togo, et vous envoie un salut très affectif, et aussi précisément à Pascal.
Merci beaucoup.
À Bouli. Vous savez, nous sommes dans un système un peu compliqué. Ça, il faut le reconnaître. La décentralisation ne peut pas marcher maintenant. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, nous avons passé un temps où tous les pouvoirs étaient concentrés entre les mains d'un seul régime. Il ne faut pas perdre ça de vue. Vous imaginez, nous avons passé assez d'années en ce qui concerne la délégation, c'est comme ça on appelait
délégation spéciale.
Et au moment où presque tout était concentré entre les mains d'un seul régime, il y avait l'opposition aussi qui se battait bec et ongles pour avoir un pan de pouvoir. Et donc on a oublié un peu ce qu'on appelle la décentralisation, on a fait des lois, on a oublié un peu ce qu'on appelle l'élection locale. Et pendant longtemps, donc du jour au lendemain, le régime se dit maintenant on va organiser les élections locales. Le régime, il sait maintenant qu'il va être obligé de laisser un petit pan de pouvoir à ceux-là qui le contestaient avant. Et donc, petitement, c'est comme ça qu'il a commencé. Il va petitement laisser quelque chose. Et aussi, l'opposition, les élections locales, les ont surpris en quelque sorte. Ils n'ont jamais appris la gestion locale. Et c'est maintenant aussi, eux aussi, ils ont commencé. Donc, nous sommes dans un système où tout est compliqué. Vous pouvez reprocher un certain nombre de choses à ces opposants, tout ça. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est la réalité.
Mais il n'y a pas que des opposants quand même.
Oui, c'est-à-dire, je parle des opposants d'abord. Même au niveau du système, au pouvoir. C'est-à-dire, vous savez, moi, j'ai été très ahuré quand je vois certains fonctionnaires devenir maires. Vous imaginez, il y a certains fonctionnaires qui sont des retraités, qui sont devenus maires, qui sont du système, mais qui sont devenus, vont faire quoi? Déjà, vous savez ce qu'on appelle fonctionnaire? Vous n'êtes pas fonctionnaire, vous vous battez. Mais le fonctionnaire, c'est que bon, surtout dans les administrations africaines, vous ne travaillez pas beaucoup, mais à la fin du mois, vous avez votre salaire. Mais quand vous êtes un privé, par exemple, certain Pascal Beauvais, il doit chercher, il doit faire tout et tout pour pouvoir régler le personnel à la fin de chaque mois. Mais le personnel, il est là, on lui donne de l'argent. Et celui-là, vous le confiez à une mairie. Donc, il va se battre, il ne sait pas comment aller chercher de l'argent. Et c'est là où encore, c'est un peu difficile de confier, c'est ce que d'après nos recherches, de confier le ministère des Finances à un fonctionnaire. Quand vous confiez le ministère des Finances à un fonctionnaire, c'est un peu difficile. Il faut confier quelquefois, d'après nos recherches, le ministère des Finances à un privé qui sait aller chercher de l'argent. Et c'est ce que Talon a fait avec Ouadani. Ouadani et d'autres savent chercher, aller chercher de l'argent. Maintenant, revenons ici dans ces situations. Maintenant, c'est pourquoi on a tardé avant d'organiser les élections. Deuxième chose, le pouvoir n'arrive pas, le régime n'arrive pas à céder tous les pouvoirs qu'il faut aux communes. C'est là où c'est un peu compliqué. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que le régime se dise, on a l'évidence que lui, ils ont lancé la décentralisation et qu'il assume. Ils étaient où? Ils ont lancé la décentralisation. Que le régime assume, oui, nous avons lancé la décentralisation. Mais il faut que nous accordions les compétences, les transferts de pouvoir qu'il faut aux communes pour qu'elles puissent bien travailler. Sinon, si on va être comme ça, on va toujours être méfiant. Parce que moi, c'est ce que je vois. Quand les opposants crient, on dit on n'a pas d'argent, on n'a pas de ceci, tout ça. Mais je comprends un peu parce que le pouvoir, en réalité, a peur de laisser un véritable port de pouvoir peut-être aux prochains élus. Parce que vous savez, quand vous devenez élu, après les maires disent qu'en réalité, ici, ce n'est pas la politique. Hein. Donc ici c'est le développement. Parce que le pouvoir, c'est que du jour au lendemain, il y a des maires qui sont peut-être unis et que du jour au lendemain, ils peuvent ne plus continuer dans la même perspective unie. Donc tout ça, là, sont des calculs que le pouvoir fait. Vous savez, la Chine, c'est l'un des pays les plus fermés au monde. Mais c'est la nation la plus décentralisée. C'est ce que les gens ne savent pas. 70% des entreprises nationales sont contrôlées par les provinces. Donc, que le pouvoir réfléchisse un peu à comment réorganiser sa décentralisation pour que les communes puissent avoir les compétences, les transferts de pouvoir qu'il faut pour pouvoir développer nos localités. Sinon, le pouvoir ne pourrait pas. Vous savez, ce matin, on a cité avant-hier, on a tenu une petite réunion au niveau de notre centre. On a dit maintenant, par rapport, regardez, à ce régime parlementaire qu'ils ont lancé. La Chine, c'est exécutif à une tête. Oui, je vois.
Oui, non.
C'est exécutif, il dit monocéphale. Mais faites de la décentralisation là-bas. C'est-à-dire que les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne. Mais faites de la décentralisation là-bas. Mais si c'est faux que le pouvoir, ou qu'on ait un exécutif à une tête monocéphale, mais qu'on ait de la décentralisation, je pense que ce sera pour le bien du pays et pour le bien aussi de ceux qui dirigent.
D'accord. Oui, Pascal, est-ce que aujourd'hui, quand on suit notre décentralisation, bien sûr, que nous faisons au pays, au Togo, est-ce que vous ne voyez pas que le mécanisme est un peu lourd? C'est-à-dire, on sait que il y a les maires et aujourd'hui, il y a les conseillers régionaux et il y a les gouverneurs. Et pour le Togo, est-ce que ce n'est pas lourd?
Bien. Vous savez, il n'y a pas une formule standard pour implémenter une politique de décentralisation. Chaque pays fait son choix en fonction des réalités locales et en fonction de la vision des dirigeants. La vision, c'est de faire de la décentralisation un outil de développement, on devrait tenir compte des réalités, faire en sorte que les décisions prises puissent vraiment permettre d'asseoir une bonne base de développement. A priori, si on prend le Togo, vu notre superficie, vu la population, un pays de 56 600 km² avec une population
de plus de 8 millions,
on a 117 communes. C'est déjà grand, contrairement au Bénin, ouais, qui n'a que 77 communes. Okay? Mais le Bénin est plus grand que le Togo. Mais le Bénin n'a qu'un seul niveau de décentralisation. Le Bénin n'a pas de région. Donc le Bénin n'a que les communes. Donc si on fait cette comparaison, on peut se dire que le Togo aurait pu choisir cette formule pour ne pas créer les régions. Mais le Togo a fait le choix de créer les régions. Le problème ne se pose pas là. Il y a une chose qu'il faut maîtriser dans le cadre de la décentralisation, il faut maîtriser un principe qu'on appelle principe de subsidiarité. C'est-à-dire que faire en sorte que les compétences soient confiées aux différentes entités en fonction de leurs capacités. Qu'est-ce que l'État va faire? Qu'est-ce que les communes vont faire? Qu'est-ce que les régions vont faire? Maintenant, ce qui pose problème, c'est la lourdeur. En fait, c'est l'importance des ressources engagées dans le fonctionnement des administrations. Parce que si nous prenons 117 communes, il faut 117 administrations locales avec des moyens logistiques, des moyens humains. Donc, c'est énorme. Et on a encore 5 régions, plus le 10 autonome du Grand Lomé. Donc, on peut se dire qu'on aura besoin plus de ressources pour assurer le fonctionnement. Donc, le volet investissement va poser un problème. Donc, ça, c'est la réalité au Togo. Mais ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'il y ait un bon leadership au niveau de la gestion de ces entités, de manière à ce que les citoyens puissent sentir quand même l'impact de cette politique de décentralisation. Au niveau de, si je prends l'exemple de Lomé, vous avez évoqué certains problèmes d'assainissement tout à l'heure. En réalité, quand vous voyez la loi qui a créé le district autonome du Grand Lomé et vous lisez la loi relative à la décentralisation aux libertés locales, vous verrez clairement que la plupart des actions d'assainissement sont confiées au district. Et donc, ce district devait se mettre au travail véritablement. Je crois que l'année passée, le gouverneur a été nommé. Ce qu'il faut mettre en place maintenant, c'est le conseil du district pour pouvoir délibérer. Jusqu'à ce jour, nous avons appris que peut-être c'est un conseil d'administration qui est mis en place pour gérer le district, ce qui n'est pas peut-être conforme au test. Il faudrait que l'État arrive à mettre en place le conseil du district qui serait composé de 53 personnes, y compris le gouverneur. Donc, les 13 communes vont envoyer 2 représentants chacune et le chef de l'État va nommer 26 personnalités. Donc, ça va faire au total 53 qui vont délibérer. Donc, quand ce conseil de six sera mis en place véritablement, je pense que ce conseil aura pris des décisions, d'ailleurs, qui priment sur les décisions des communes, pour que les questions d'assainissement qui, au regard des tests, devaient être appuyées par la NASAP, ok, oui. Et donc, puisse vraiment que ces actions, des actions sérieuses soient mises en œuvre. Vous savez, la question d'assainissement de Lomé ne pourrait pas être abordée par les communes individuellement. C'est que si les communes voulaient le faire, cela n'aura pas un grand impact. Parce que c'est un seul territoire, il faut un plan stratégique, c'est-à-dire que pour vraiment réaliser les grands travaux, pour pouvoir vraiment régler le problème d'assainissement de Lomé. Donc ça, c'est un élément que nous devons prendre en compte. Maintenant, revenons à la question, savoir est-ce que ce n'est pas avoir plusieurs entités, deux niveaux, communes, régions. Ok, nous venons d'avoir les conseils régionaux. Donc la question va se poser, où est-ce que tous ces entités vont mobiliser des ressources pour leur fonctionnement et pour la réalisation des projets d'investissement. C'est la question que le citoyen se pose. Donc, nous devons tous nous inscrire dans cette dynamique-là pour voir quel devait être l'impact de la décentralisation sur la vie des citoyens et on doit commencer par où. Et je vous dis que, fondamentalement, la question de base, c'est l'économie. Parce que si nous ne réglons pas la question économique, on ne peut pas aborder de manière durable la question de développement local. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un bon plan architectural pour la construction de votre maison, mais quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pourrez pas réaliser votre ouvrage. Donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est d'attaquer la question de développement économique local, parce qu'il faudrait que les actions de gestion des affaires locales puissent vraiment impacter les citoyens. Donc, il faut faire en sorte que les actions que nous menons au niveau des territoires puissent vraiment impacter la vie des citoyens à travers le développement des projets qui offre assez d'opportunités d'affaires aux élus locaux, également qui accompagne qui offre assez d'opportunités aux citoyens et qui aussi soutiennent les initiatives des citoyens. Donc, je crois que cet aspect n'a pas été suffisamment abordé. Je sais que certains maires ont fait des efforts pour arranger les rues. C'est facile pour eux d'engager un contrat, avoir 50 millions tout de suite pour ces travaux-là. Mais on aurait pu prendre les 50 millions-là d'appuyer les femmes ou bien les jeunes à développer des activités économiques. Parce que si vous ne développez pas l'activité économique, le peu de ressources que vous mobilisez, vous investissez dans certains projets, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, des gens qui contribuent, qui cotisent l'argent, seront fatigués parce que leurs activités même ne marchent pas. Donc si vous faites un tour aujourd'hui, vous allez remarquer que les citoyens sont vraiment dépassés. Parce que les pouvoirs publics, que ce soit l'État ou bien les collectivités territoriales, ont leur champ, les entreprises. C'est-à-dire que ou bien c'est là où tout le monde s'en va chercher ses ressources. Parce que, donc, nous devons d'abord mettre en place des mécanismes pour entretenir ces entreprises, créer les conditions pour le développement de ces entreprises, accompagner les entrepreneurs, faire en sorte que les infrastructures socio-économiques que nous mettons en place puissent concourir au développement de leur business. Et en créant de la richesse, nous allons poser une bonne base pour pouvoir vraiment régler la plupart des problèmes sociaux. Je pense que c'est l'approche aussi qui a manqué. Donc, nous disons que deux niveaux n'est pas aussi la question, mais il faudrait qu'on travaille sur des axes stratégiques devant asseoir une bonne base de développement de notre pays.
D'accord. Oui, mais Gabriel, comment je parle de la lourdeur? C'est vrai, c'est compte tenu alors des ressources que nous avons, parce que déjà le Bénin est à côté de nous, ce sont 17 communes, mais nous sommes jusqu'à 117 communes. Est-ce que ce n'est pas trop ça?
Oui, c'est trop. Je pense que nous devons repenser notre décentralisation. Si véritablement nous avons cette envie-là de faire de la décentralisation et de promouvoir le développement de notre pays par le développement à la base. Parce que véritablement, quand tu prends le Togo, un pays de 56 600 km² qui comporte 117 communes, 5 régions et 39 préfectures, c'est un peu trop. Tout ça l'a chapeauté aussi par le district autonome du Grand Lomé. Bon, Pascal vient de dire tout à l'heure que le conseil la structure qui devait être chargée de faire exécuter les travaux par ce district-là n'est pas encore mise en place, que c'est un conseil d'administration qui gère cela. Et ensuite aussi il y a le ministère de l'administration territoriale aussi qui entre-temps géré par M. Payadoua Boupessi en cours de mandat a modifié certains tests, ce qui fait que les gens se sont perdus. Quand on parle de compétences partagées, compétences propres et autres, là aujourd'hui les citoyens ne savent pas véritablement à quel sens se vouer. Beaucoup de personnes dans les émissions interactives, à chaque moment que les gens appellent, ils accusent juste la commune sans savoir que ça relève de la compétence de la commune ou bien ça relève de la compétence de l'État. Donc ce sont des choses qui me poussent à dire que nous devons repenser notre décentralisation. Pourquoi pas? Cet amorcellement du territoire national, Lomé seul, on a combien de communes?
Lomé, 13 communes.
Pour un territoire de combien de superficie, c'est trop. 13 communes à Lomé, c'est trop. Déjà, moi, je me dis, à Lomé, deux communes suffit. Hein, commune du Grand Lomé, commune d'Agoué. Ça suffit largement. Et ça va permettre aux communes d'avoir assez de ressources. D'autant plus qu'il y a des mécanismes de contrôle, de gestion de ces fonds-là. Ben, je pense que ça va être très facile que de morceler les communes aujourd'hui. Dans certaines communes même, les sources de financement qu'il y a, les entreprises qu'il y a, je ne suis pas sûr que ces entreprises-là pourront faire à ce que les communes bénéficient de 1 million par mois. Je n'en suis pas sûr. Et comment ces ressources-là même sont mobilisées d'ailleurs? Comment les communes arrivent à avoir de ces ressources? Parce que j'ai eu à entendre que ce ne sont pas, peut-être, je passe sous le contrôle de M. Pascal Agbové, je ne sais pas si les communes ont des fonds qui vont directement dans leur caisse ou bien tous les fonds sont confiés à des structures et puis après, on dispatche ça aux communes. Je ne sais pas comment ça se fait. Parce que dans certaines communes, on se dit, bon, il n'y a pas de fonds. Certains ont crié parfois même qui n'ont même plus de fonds de roulement, qui n'ont pas d'argent pour mettre du carburant dans leur véhicule et autres. Là, donc, tout ça, je pense que nous devons repenser à notre décentralisation. Et la décentralisation à deux niveaux, d'ailleurs, c'est trop déjà. C'est trop. Les communes et ensuite les régions. Mais tout ça, là, ce sont des personnels. On doit payer ces personnels-là. C'est des milliers de gens qu'on a recruté, c'est vrai, ça fait du travail pour certains citoyens togolais, mais en réalité, est-ce que ça profite à l'État? Pour un développement communal qu'on vient de commencer, des élections municipales qu'on vient de commencer, après une gestion, et ça aussi, il faut le dire, la gestion de la délégation spéciale, est-ce qu'on nous a rendu compte? Est-ce qu'on a fait les comptes de cette gestion-là? Comment les fonds ont été gérés jusqu'à ce qu'on organise les élections municipales? Rien n'a été dit.
Et pourtant, les acteurs sont là.
Et pourtant, les acteurs, là, certains même sont encore des maires. Et ce sont eux qui crient qu'ils n'ont pas encore de moyens, mais ils n'ont même pas de moyens de financer leur propre administration avant de penser à développer leur commune. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense que nous devons repenser véritablement notre décentralisation. On peut tout casser. Hein, si véritablement on a cette mentalité-là de faire évoluer le pays, il faut laisser de côté les histoires politiques. D'accord. On met trop la politique dans cette affaire de décentralisation, d'autant plus qu'on se dit, bon, dans cette zone-là, si on laisse libre, c'est ce parti politique-là qui va contrôler, donc ça ne va pas nous faire du bien. Non, il faut oublier ça. Il faut penser nation.
D'accord. Oui, infirmière, c'est vrai que quand je parle alors de la lourdeur hein, de cette décentralisation, finalement, c'est parce que à un moment donné, quand on parle de communes, hier, dans son intervention, le maire Aboka comparait même les communes aux entreprises. Hein, il disait même d'ailleurs que c'est une entreprise dans laquelle chacun ou chaque acteur doit travailler pour la survie même d'ailleurs de cette entreprise. Mais et là, on parle alors de la rentabilité aussi de la viabilité. Alors de l'entreprise, mais quand les ressources ne sont pas là, ce serait difficile alors pour ces entreprises alors d'être viables et d'être rentables. Alors est-ce que ça veut dire que quand vous rentrez ou vous allez même à l'intérieur du pays, certaines communes sont appelées à ne jamais alors être développées?
Oui, vous savez, je pense qu'il faut suivre un peu ce que le maire Aboka a dit. C'est-à-dire quand vous êtes maire, il ne faut pas seulement s'attendre à ce que chaque mois que l'État vous mettre de l'argent à votre disposition. La première des choses que vous devez savoir, c'est que vous-même, vous devez savoir comment aller chercher de l'argent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous mettez un fonctionnaire à la tête d'une mairie, vous vous attendez à quoi? Il s'attend à ce que chaque mois, vous lui envoyez de l'argent. Donc la personne n'a aucune gestion, aucune notion en ce qui concerne la gestion municipale, la gestion communale. Donc ça va bégayer, ça ne va pas aller de l'avant. Nous avons accusé un certain retard. Gabin et Pascal Agbouvé comparait le Togo au Bénin tout à l'heure en ce qui concerne la décentralisation. Vous savez, nous sommes un petit pays, mais nous avons assez de ressources dont le Bénin ne dispose pas. Les Béninois, ils sont un peu réalistes. Ils se disent qu'ils n'ont pas assez de moyens, même si le pays est grand. Est-ce que vous connaissez actuellement le nom du Premier ministre béninois? Quelqu'un le connaît dans cette salle? Dans ce studio? Non, on n'en a pas. Ils ont supprimé ça, le poste de Premier ministre. Maintenant, ils se disent non, peut-être ça leur coûte cher, ça leur revient cher. Il faut supprimer ça. Enfin, le Sénégal aussi l'avait supprimé. C'est une question de moyens, en fait. Mais ici, si les autorités togolaises se sont dit, on peut aller à tous ces niveaux, trois niveaux de décentralisation, c'est que nous avons des moyens. Donc, sur ce point, on a des moyens. Sinon, ils n'auraient jamais lancé la décentralisation. Alors, la meilleure des choses, c'est que tout le monde aille à cette école de décentralisation et que le pouvoir aussi décide, se dise, ah, maintenant, nous voudrions qu'on ait de la décentralisation. La décentralisation simple, en fait. Décentralisation, c'est ce que nous voudrions. Si le pouvoir n'a pas véritablement cette ambition de lâcher du lest, de se dire, non, je veux qu'on ait de la décentralisation, on n'aura jamais la décentralisation. Parce que les moyens dont vous avez besoin à un moment donné avant d'aller chercher d'autres moyens, vous ne les aurez pas. Ça va toujours bégayer. Le pouvoir va toujours traîner. Aussi, on a dit, oui, le Togo a 13 communes. On a 13 communes dans le Togo. Lomé, 13 communes. Plus Agouen,
non? Oui, non, Lomé, ça veut préfecture d'Aguanivé, préfecture
du Grand Lomé. On a 13 communes, pourquoi le pouvoir l'a fait? Moi, je pense que quand vous voyez un peu toute cette cartographie, le pouvoir l'a fait à dessein. C'est politique. C'est politique parce que le pouvoir se dit, moi, quand vous analysez un peu ce pouvoir, il est intéressant à analyser. Vous savez, ici, se disent de réalité, quand vous confiez, par exemple, vous êtes maire du Grand Lomé, mais vous allez devenir puissant. Ici, il a donné que le pouvoir perde aux élections locales. Mais ça veut dire qu'on aura un opposant puissant. Face à lui, si vous confiez par exemple tout à Gouet, le maire d'Agouet, à Gouet-Nivé, et que ce soit du jour au lendemain un opposant qui devienne maire d'Agouet, comme le maire de Dakar, le maire de Thiès, le maire de Ziguinchor, vous imaginez? Mais ce sont deux personnalités très puissantes face à ce pouvoir-là. Donc le pouvoir va perdre un peu de mélange concernant un certain nombre de choses à contrôler. Le pouvoir, c'est le faire à dessein. Je vous ai dit, nous avons...
Est-ce qu'on a vraiment la bonne foi de faire vraiment de la décentralisation?
Non, on a la bonne foi, mais on se dit, vous savez, quand on est au pouvoir, quand vous êtes un régime au pouvoir, la première des choses à laquelle vous pensez, c'est la conservation du pouvoir. Ne l'oubliez jamais. Donc, eux aussi pensent à la conservation du pouvoir, eux pensent aussi en même temps au bien-être de la population. Ça va traîner un peu, mais je pense qu'avec le temps, le pouvoir est en train de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quand vous voyez un peu l'attitude de Fonia Sigbe, tout ça, quand vous voyez par exemple l'autre fois, on a réformé l'OTR, tout ça, ça veut dire se dire en réalité que non, peut-être, c'est ma manière de l'analyser, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être l'argent qui devait rentrer dans la caisse, ça ne rentre pas. Ça veut dire qu'en réalité, se rend compte qu'il y a des citoyens qui ne sont pas à l'aise. Donc il faut véritablement travailler et se rendre compte. Mais c'est qu'il doit aussi protéger son pouvoir. C'est ça la vie politique.
Oui, Pascal, c'est vrai. L'une des lacunes aussi de cette décentralisation, c'est le manque alors de participation citoyenne. Parce que, tel que vous l'avez évoqué tout de suite, où on voit quand même des citoyens qui sont à l'écart et qui disent, mais écoutez, vous voulez faire de la décentralisation, faites cela, nous allons voir. Mais quand ça se passe comme cela, moi je me demande, est-ce que c'est parce que le concept n'a pas été expliqué aux citoyens pour que, du moins, qu'ils soient impliqués totalement alors là-dedans?
Bonne question. Vous savez qu'aujourd'hui, les belles actions des pouvoirs publics n'arrivent pas à produire de l'impact faute de l'implication citoyenne. Vous savez, quand vous êtes dirigeant et que vous n'avez pas l'adhésion de la base, même si vous avez un bon plan, vous ne pourrez pas le réaliser. Alors, il est important d'aborder cette question. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'on observe une restriction de l'espace civique. Et donc, les citoyens se mettent à l'écart des actions des pouvoirs publics, la majorité des citoyens. Et si on arrive à cette situation-là, c'est que des dirigeants auront du mal à implémenter les bons projets de développement. Et pourquoi une telle situation? Parce que d'abord, c'est historique et puis, je ne sais pas. Vous savez, longtemps, nous avons évolué dans un système centralisé, que de pouvoir centraliser. C'est-à-dire que quand on parle des affaires publiques, les citoyens avaient peur de la gestion des affaires publiques. Et donc, avec cette décentralisation, les gens croyaient que les maires sont des représentants de l'État et ils vont gérer comme avant. Je sais que les maires ont le statut d'agent de l'État, mais dans le cadre de la politique de décentralisation, des maires sont redevables aux citoyens de leur territoire, de leur commune. Et c'est important. Aujourd'hui, les maires sont des mandats, les élus locaux sont des mandataires et le peuple est le mandant. Cela voudra dire naturellement que ce que font les mandataires, ils doivent rendre compte au mandant. Mais quel est le vrai mécanisme mis en place pour que les élus, les citoyens puissent s'impliquer et puissent savoir ce qui se passe au niveau des communes? Et la loi a prévu un mécanisme pour faciliter la participation citoyenne. Et ce mécanisme est la mise en place d'une institution citoyenne au niveau du territoire communal. Cette institution s'appelle le Bureau du citoyen. Et je pense qu'après six ans de gouvernance, plusieurs communes n'ont pas encore mis en place cette institution-là. Cette institution qui devait être dirigée par un coordonnateur pour faciliter la sensibilisation, donner l'information aux citoyens, afin que les gens sachent ce que font les élus locaux. Et si des citoyens ont des difficultés ou bien ont des préoccupations, ils peuvent aller vers cette institution-là pour porter leur doléance et puis exprimer leur déception ou bien leur préoccupation, afin que le coordonnateur puisse verser ces éléments au maire. Mais je crois que sciemment, on n'a pas mis en place cette institution. Du coup, les citoyens sont un peu mis à l'écart parce que on n'a pas créé les conditions pour faciliter leur participation. Pourtant, on s'en va vers eux pour leur demander la contribution financière, payer des taxes et impôts. Les gens paient cela, les citoyens paient ces taxes et impôts, mais en retour ne savent pas ce qui est fait effectivement avec ces ressources-là. Et donc, la question demeure, est-ce que nous voulons que les citoyens soient au centre de la gouvernance locale? Si oui, nous allons produire de l'impact. Sinon, nous allons conduire les affaires locales, mais dans l'intérêt de quelques individus. Cela ne bénéficierait pas l'ensemble de la population. Donc, si le pouvoir central pense que cette nouvelle politique de décentralisation ou bien cette nouvelle politique de gestion des affaires publiques, c'est que vise vraiment à l'accompagner dans la politique de gestion des affaires publiques de manière à ce que les vraies préoccupations des citoyens soient prises en compte sur l'ensemble du territoire. Afin que le développement harmonieux soit effectif, je pense qu'il appartient aux décideurs au niveau central de repenser à la stratégie et de faire en sorte que les candidats, même aux élections, soient bien étudiés. Moi, je pense que on a peut-être commis des erreurs en proposant certaines personnes pour être des élus locaux. Vous savez que dans certains pays, les leaders politiques ou bien les représentants des partis politiques ne vont pas aux élections locales. Oui. Normalement, la gestion d'affaires locales incombe aux citoyens, aux acteurs qui sont impliqués dans la gestion des affaires des communautaires. Et aujourd'hui, c'est ceux qui sont habitués à gérer les affaires centrales qu'on a mis à la tête des communes. Donc, ils attendent toujours des ordres de la part de leurs dirigeants. Ils ne prennent pas des initiatives. Vous savez que les ressources des communes proviennent essentiellement de trois sources. Hein. D'abord, il y a les recettes fiscales. Comme l'autre avait posé la question, je voudrais expliquer. Oui. Les recettes fiscales qui sont mobilisées de deux manières. Il y a une partie qui est mobilisée directement par les communes elles-mêmes à travers leur service de recouvrement. Une partie qui est recouvrée par l'OTR, reversée par exemple les taxes, la taxe d'habitation et autres taxes qui sont collectées par l'OTR et reversées aux communes. Ça, donc, c'est la première source. Et la deuxième source de financement, c'est la dotation de l'État à travers le mécanisme de fonds d'appui au développement, fonds d'appui aux collectivités territoriales. Donc, à travers une clé de répartition de manière à ce que la dotation puisse être affectée aux différentes entités décentralisées. Et la troisième source de financement, c'est la mobilisation des fonds propres à travers la coopération décentralisée également à travers la coopération d'autres acteurs. Donc, je pense qu'il appartient aux élus locaux d'être ingénieux en la matière, de manière à ce qu'ils puissent quand même mobiliser des ressources suffisantes. Mais il y a une question aussi qui demeure, c'est la libre administration des collectivités territoriales qui pose problème. Il faudrait que l'État central puisse quand même ouvrir toute la voie. C'est que, voilà, donne la possibilité aux élus de gérer les affaires telles que les textes le prévoient. Et, en faisant cela, les élus locaux vont produire de l'impact et cela va même aider le pouvoir central. Je reviens à Firmin pour le dire. Aujourd'hui, vu les réalités sociopolitiques, les réalités socio-économiques de tous les pays, celui qui veut conserver le pouvoir doit plutôt assurer une bonne gestion pour impacter les citoyens, de manière à ce que les citoyens puissent leur renouveler la confiance. Et donc, l'État a intérêt à faire en sorte que cette nouvelle forme de décentralisation puisse être bénéfique aux citoyens, en créant les conditions qu'il faut pour que les élus locaux puissent travailler librement, en fournissant les moyens qu'il faut pour les accompagner et puis en leur donnant les possibilités de pouvoir nouer des relations avec d'autres partenaires pour vraiment réaliser les projets de développement local.
Merci. Oui, Gabriel, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'on est en train de faire une décentralisation sans les citoyens?
Ouais, les citoyens ont servi à voter. Et puis après, ils ont été écartés quand même de la gestion, peut-être par manque d'informations, parce qu'il me semble que les conseils dans les communes sont ouverts pour que les citoyens puissent assister quand même à ces conseils-là, à des délibérations et autres. Mais je ne suis pas sûr si un seul citoyen togolais s'est déjà rendu à ces conseils dans les communes. Je ne sais pas, peut-être Pascal va m'édifier. Et au niveau de la gestion même, on ne sait pas par quel mécanisme les citoyens peuvent demander des comptes à leur commune. Aujourd'hui, heureusement qu'au moins il y a une commune qui passe par les médias pour faire des comptes, pour rendre compte aux citoyens, pour dire que bon voilà, en 5 ans ou en 6 ans de gestion, ce qu'on a eu à faire et tout, et il y a encore d'autres choses à faire.
Et c'est quoi? C'est quelle commune?
C'est GOV4, ils sont passés chez vous-même ici, ils ont parlé de leur plan et aussi
tout ce qu'ils ont eu
à faire pendant ces 6 ans. Mais et les autres communes, les 117, les 116 autres communes, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? On ne sait pas. Et les populations ne savent pas réellement ce qui est fait de leur argent, des ressources qu'ils donnent à ces communes. Maintenant, et l'autre question est de savoir est que nos populations, les gens pensent que les maires sont des génies ou bien des gens tombés du ciel et que bon, tout ce que nous on veut, ils doivent le faire et sans nous. Notre rôle, c'est peut-être donner des taxes communaux ou autres là, et puis ça s'arrête là. Alors que le rôle même du citoyen, c'est de contrôler. Quand tu donnes de l'argent, quand tu finances un projet, mais il faut contrôler de bout en bout. Il faut souvent faire des remarques, même dans ton quartier. Si tu constates quelque chose, tu peux aller vers la mairie. Bon, voilà, dans mon quartier, il y a eu tel problème. Donc, à un moment donné, je pense que il y a un problème de communication, de sensibilisation aussi. C'est quelque chose qu'on doit faire au jour le jour. Pendant ces 6 ans qu'on a passé, en dehors de M. Pascal, je ne vois pas des services administratifs, même de l'État, investir le terrain pour pouvoir parler de cette décentralisation-là, des rôles qui incombent réellement aux populations et leurs droits vis-à-vis des communes. Je n'ai pas vu les services administratifs de l'État faire ce genre de travail. Donc, à un moment donné, je pense que c'est la pédagogie qui doit prévaloir pour cette décentralisation-là, parce que jusque-là, les populations se sont senties écartées de la gestion des collectivités territoriales.
D'accord. Oui, mais c'est vrai que quand on parle alors de la décentralisation, oui, le citoyen doit être au cœur de la gouvernance locale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, quand hier je suivais, bien sûr, monsieur Urobosi Tsakondo, qui est aussi un consultant en matière alors de décentralisation, qui disait qu'au début même d'ailleurs de cette question de décentralisation, ils étaient partis voir le feu président Gnassingbé Eyadema, où on a commencé même d'ailleurs ils ont commencé par lui expliquer ce que c'est que la décentralisation. Et mais le fait président Gnassingbé Eyadema leur a demandé de dire exactement ce qu'est la décentralisation en Kotokoli. Et il dit que non, il n'avait pas arrivé quand même à le dire. Et ça veut dire qu'au fin fond, le président Eyadema lui disait, mais vous n'êtes pas arrivé à me dire ce que c'est que la décentralisation en Kotokoli. Vous avez apporté même la démocratie que nous n'avons pas encore assimilée et vous en rajoutez d'autres. où vous a rajouté la décentralisation. Est-ce que finalement, la population, est-ce que vous pensez qu'on comprend concrètement ce concept de la décentralisation?
Donc, première chose, vous savez, quand vous interrogez Maître d'Église, Maître Agbofeu, Maître Agbouébo, ils ont dit au début des années 90, ou 90, ils étaient allés voir Yassine Bouyadema pour lui parler de la démocratie. Ils ont dit, Yadema était tellement braqué. Mais ils ont pris du temps pour lui expliquer le bien fondé de la démocratie, les bienfaits de la démocratie. La démocratie, c'était bien pour tout le monde. Et c'est avec le temps qu'il a commencé par accepter. C'est la même chose avec l'actuel pouvoir. C'est-à-dire la décentralisation. Il faut rassurer le pouvoir qu'il a arrêté. La décentralisation, c'est aussi pour son bien. C'est ce que Pascal Agbouvet disait tout à l'heure. Quand vous mettez à l'aise la population, c'est elle-même qui vous aide à vous protéger votre pouvoir. C'est ça qui est la chose la plus importante. Mais il faut que le pouvoir arrive à comprendre d'une manière ou d'une autre que la décentralisation, c'est pour le bien du pays. Et ça allège les tâches à ceux-là ou à nos premières autorités. Mais la deuxième chose, par rapport aux citoyens, la décentralisation, c'est un système dans lequel nous sommes tous rentrés ignorants. C'est-à-dire, et les maires sont rentrés dans un système où ils avaient une ignorance parfaite, légendaire. Ils ne comprenaient rien. En 2019-2020, les maires élus, la plupart ne comprenaient rien de la gestion communale, tout comme les citoyens. Moi, je n'ai jamais vécu dans un pays où on a fait élection locale. Par rapport à mon âge, c'était ma première élection locale que j'ai vue, c'est en 2019. Vous imaginez? Donc, c'est parce que nous, on a un peu fréquenté, qu'on a compris un peu, on voit dans les livres, on sait un peu ce que l'on appelle la décentralisation. Même ma grand-mère qui est au village, vous lui parlez de la décentralisation. Quand vous lui demandez du jour de payer les taxes, elle va comprendre, elle va rien comprendre. Le taxe communale, c'est quoi la taxe communale? Donc, nous sommes tous rentrés dans un système où nous sommes tous ignorants. Donc c'est normal que certaines choses ne marchent pas. Alors la meilleure des choses, il faut que le pouvoir mette un accent maintenant sur la sensibilisation. La sensibilisation, c'est-à-dire des valeurs, le patriotisme, expliquer aux gens qu'en réalité, la décentralisation, c'est pour vous. Donc, ils vont avoir une certaine adhésion. Mais si on n'explique pas cela, les gens ne vont pas adhérer aux projets locaux qu'on va lancer. Vous pouvez tout faire. Les gens vont vous laisser perdre pendant longtemps. On les a écartés, vous imaginez? On élabore des projets et on exécute sans nous. Et donc, depuis 2019, vous nous demandez de participer. Comment on va participer? Ça va être compliqué. Donc, il faut maintenant sensibiliser. C'est pour cela qu'au niveau de nos sens, c'est ce que nous faisons. Vous savez, j'étais très surpris. C'était la première activité de notre centre que nous avons lancée, c'était avec le maire Aboka. Il n'était même pas là. Mais ce qui nous a surpris, c'est que nous l'avons adressé une lettre que nous voulions organiser une séance de sensibilisation pour parler du patriotisme, de la citoyenneté, tout ça. On nous a répondu tous le lendemain. Alors, qui m'avait jamais vu? Je ne l'avais jamais vu. Et puis, en 2-3 jours, on a organisé l'événement. Et je suis allé le voir, tout ça. Non. Quoi qu'on puisse lui reprocher, il est bon en termes de décentralisation. Il a une certaine connaissance. Tout comme le maire Gomado, Golf 1. C'est la même chose. On lui écrit. Le lendemain, bizarrement, on s'est retrouvé au centre commercial de Ben. Il me dit, ah, j'ai lu votre lettre là. Vous voulez faire ça quand? Et je lui disais. Et puis, ça s'est passé comme ça. Ça veut dire, ils sont un peu ouverts. Mais il y a des maires, je vous le dis, qui sont unis. Même Aboka, c'est unir. Ou je me trompe?
Oui, c'est unir.
Unir. Mais je lui ai écrit 2 jours après, il m'a répondu. Mais il y a des mains unies à qui j'ai adressé la lettre. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas de réponse, alors que ça fait des années.
Oui, parce que c'est vrai qu'au-delà de tout, vous avez également aussi des projets, hein, des projets pour ces mairies. Et il y a même un festival en vue.
Effectivement, il y aura lieu au Togo du 15 au 17 mai 2025, un festival international de développement économique local qui vise à accompagner le processus de renforcement du tissu économique des territoires. Vous savez, cette activité s'inscrit dans le cadre d'une grande stratégie que nous venons d'élaborer, qu'on appelle stratégie d'appui au développement économique des territoires, SADET. Et donc, c'est la première activité que nous allons organiser. Et les autres actions qui sont inscrites dans le cadre de la stratégie seront présentées aux élus locaux. Cet événement connaîtra la participation des autorités locales africaines, également des gens viendront de l'Europe. Et plusieurs investisseurs sont au rendez-vous. Même c'est avec eux que je discutais tout à l'heure. D'autres même viendront une semaine avant l'événement. Nous sommes en train de mobiliser beaucoup d'investisseurs pour venir discuter avec les élus locaux directement. Et nous sommes en train de préparer les élus locaux pour que les projets soient vraiment bien présentés à ces partenaires qui viendront. À partir de la semaine prochaine, déjà, nous irons sur le terrain pour faire un film documentaire sur les réalisations des élus locaux. Le film vise 3 objectifs. D'ailleurs, de produire des éléments qui justifient l'impact de la décentralisation durant les 6 ans. Deuxième objectif, de recueillir les attentes des citoyens en termes de difficultés, tout ça. Et troisième chose, de valoriser, de prendre en compte les potentialités de chaque commune. Parce que les partenaires nous demandent déjà, par rapport à leur agenda, tout ça, nous avons envie d'investir dans tel domaine, quelles sont les communes dans lesquelles nous pouvons aller. Et donc, cette tournée, par exemple, nous permettra de rencontrer les autorités locales, aller sur le terrain, voir ce qui se passe et de faire une cartographie. Et donc, ça, c'est un élément très important. Et nous aurons également à organiser, dans le cadre du festival, une grande soirée que nous appelons souvent la nuit de la décentralisation, ou bien Decentral World, et ce serait un dîner de gala et de distinction des acteurs. Donc, 20 élus locaux qui ont pu réaliser des actions significatives dans le domaine du développement économique local seront primés. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, même que nous venons de lancer un concours de leadership en développement local pour les 13 communes du Grand Lomé, pour choisir les 8 meilleures communes de Lomé. Et nous invitons la population à participer massivement à ce vote-là pour nous permettre de choisir les communes. Pour le volet concernant les communes de l'intérieur, le concours sera lancé lundi prochain, 14 avril, pour que nous puissions choisir aussi également des communes à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, nous avons 117 communes. Donc, les meilleures communes que nous allons choisir seront promues parce qu'il nous faut des communes de référence. Donc, on ne peut pas aborder tous les aspects. Donc, on va voir à peu près, selon les citoyens, ceux qui font des exploits, tout ça. Et nous allons focaliser plus nos actions dans ces communes-là pour vraiment les accompagner, sans oublier les autres, parce que notre évaluation porte juste sur le développement économique des territoires. Les autres aspects ne sont pas pris en compte. Donc, voilà un peu ce qui sera fait. Il y aura des rencontres B2B. Il y a une journée qui sera consacrée où les élus auront à présenter directement les projets aux investisseurs. Et je pense qu'à travers ce mécanisme-là, nous aurons quand même cette possibilité de mobiliser des ressources. Et il y a des partenaires même qui ont déjà envoyé des projets. C'est-à-dire que nous voulons financer les élus dans ces domaines. Voilà notre stratégie. Et commencer par travailler. Donc, toute notre équipe est en train de travailler actuellement. Et je pense que c'est notre modeste contribution pour aider l'État à atteindre les objectifs assignés à la décentralisation. Donc, voilà ce qui sera fait.
D'accord. Oui, Gabin, c'est vrai que les maires ou les élus locaux sont pratiquement à la fin de leur mandat et que les prochaines élections municipales se préparent déjà. On vient de terminer la révision des liste électorale dans pratiquement dans la maritime, c'est-à-dire la zone 1, la zone numéro 1. Alors, finalement, quelle est votre appréciation sur ces 3 ou 4 jours alors de révision et de liste électorale?
Vous savez, je tiens à féliciter encore le citoyen, parce que véritablement, c'est ce qu'on appelle citoyen modèle. Il ne faut pas toujours dire qu'est-ce que le pays m'apporte, mais pose-toi la question, qu'est-ce que j'apporte au pays? Et c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, par rapport aux 4 jours de recensement de la part de la CENI, moi, je l'ai dit depuis le début que la CENI va encore ajouter un autre jour. Mais est-ce que ça compense les autres jours de dysfonctionnement qu'on a eus? Vous savez, j'ai écouté un chargé de communication de la CENI sur une radio sœur. Sincèrement, j'étais dégoûté par sa communication. Avec cette arrogance et autres, là, il ne prenait pas en compte ce que les gens disent. J'ai eu à écouter des journalistes qui sont allés sur le terrain, qui ont fait des constats par rapport au dysfonctionnement, les caméras de laptops qui ne fonctionnaient pas, la lenteur dans l'enregistrement des gens et tout. Il y a eu tellement de dysfonctionnements que les journalistes ont relevé. Mais ce chargé de communication-là a tout battu en brèche. Oui, non, c'est des cas isolés. Ça ne veut pas dire que non, dans certaines zones, il n'y a pas eu la révision latérale ne s'est pas bien passée et tout. Mais la question que je me suis posée, quelle est l'intention même de la CENI? Parce que vous savez, le principe sacro-saint et un droit inaliénable est que le citoyen en âge de voter doit le faire et personne ne peut l'empêcher. Donc, si quelqu'un veut s'enrôler, notons que lors des élections du recensement qui a abouti aux élections législatives dernières, beaucoup de personnes se sont plaintes qui n'ont pas pu se faire enrôler. Beaucoup de personnes. Il y a une dame même qui elle s'est cassée la jambe dans cette histoire-là, malheureusement, elle est décédée. Elle voulait se faire enrôler au niveau de Tocoin Solidarité. Elle n'a pas pu le faire jusqu'à sa tombe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous coûte d'ouvrir la vanne pour que tous les citoyens se fassent recenser. Et on donne juste 4 jours. Mais les 4 jours-là, je vous assure, il y a eu 2 jours de dysfonctionnement. Les gens n'ont pas pu se faire enrôler. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on manifeste cette volonté-là de faire enrôler tout le monde, de ne pas écarter des gens. Sincèrement, parce que c'est ce qu'on vient de dire. Les Togolais se sentent écartés. Et dès lors, du recensement électoral qui va aboutir, qui va nous conduire aux élections municipales, on écarte encore des gens. C'est ce que moi j'ai constaté. On écarte des gens.
Merci Gabin. Oui, Femme.
Tout d'abord, par rapport à l'événement de Pascal Edouard Gouvet, vous savez, moi je suivais un film sur Action. Vous avez le canal Action. Il y avait un maire. Le gars venait d'être élu. C'était un film des années 70. Il venait d'être élu. Puis on lui a présenté tout un village. On dit, c'est là, il va être maire. La première chose qu'il a dit, il me faut assez d'investisseurs ici. Il me faut une discothèque, il me faut un supermarché, il me faut assez d'endroits de divertissement, il me faut des parcs et tout ça. Il a commencé à réfléchir. Et des années après, quand vous revoyez le même village, vous n'allez pas le reconnaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prochains candidats que nous aurons au municipal devront être ce maire-là que j'ai vu dans ce film des années 70. C'est-à-dire quand vous avez des maires qui n'ont aucune notion en ce qui concerne comment gérer une entreprise, comment gérer une localité, avec assez d'événements, on n'aura rien. Donc, ce qui nous manque ici en Afrique, on l'a toujours dit ici, on n'a pas d'événements au Togo. Il faut que les prochains maires arrivent à nous en créer. Il faut qu'on ait des événements. C'est ça qui fait circuler l'argent dans le pays. Maintenant, ce qui concerne la révision des listes, vous savez, ce problème qu'on évoque là, moi, ça me fait un peu sourire. Je vous assure, vous savez, on aura toujours ça. Parce que tout d'abord, nous avons une CENI. La CENI, elle est quoi? Elle est politique. Là où il y a la politique, il y a toujours des soucis. La CENI, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la conséquence d'une crise de confiance. Parce qu'avant, dans certains pays, la France, les États-Unis, c'est l'administration et les médias qui organisent les élections. En France, c'est l'administration simple. Ici, on a dit non, on n'a plus confiance en l'administration. Maintenant, on crée une organisation qu'on appelle CENI. Et dans ça, il y aura les politiques. Mais ce que vous refusez, c'est ce que vous allez toujours voir. Il y a la CENI, la politique. De la merde des choses, il faut enrôler les gens depuis leur enfance. C'est-à-dire, il faut que nous arrivions à atteindre ce système de, comment vous voulez, on l'appelle ça numérique ou de biométrie, je ne maîtrise pas.
Oui, biométrie.
Biométrie, c'est-à-dire, vous naissez tout de suite, vous naissez aujourd'hui, vous êtes enregistré. Et donc, jusqu'à vos 18 ans, donc vous, le jour de l'élection, vous allez juste présenter votre carte d'identité. Donc, à ce niveau, il n'y aura plus de tricherie. Vous savez, j'ai un ami en France, je répète souvent cet exemple, j'ai un ami en France, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit qu'il a mis au monde un enfant. 3 ans, 4 ans après, il y a eu la mairie de la localité lui a écrit, monsieur, votre enfant vient d'avoir 4 ans, voilà les écoles que vous avez dans votre environnement. Et que voilà c'est le choix que nous vous faisons. Alors qu'il n'a jamais imaginé. Ça veut dire que le jour où il enregistrait l'enfant, il ne s'attendait pas à ce que dans 4 ans, que l'une des mairies puisse lui envoyer ce message. Ça veut dire quoi?
Ça aussi, c'est le bien fondé de la décentralisation.
Oui, c'est bien fondé. Mais aussi, c'est une question de volonté. Si on veut numériser tout le système, je pense qu'on va même balayer cette histoire de CENI ou de révision de liste électorale.
Pascal, quelle est votre appréciation par rapport à cette révision de liste électorale que nous venons alors d'assister?
Mon frère Pascal, vous savez que j'interviens sur les questions d'intérêt public, mais j'évite de me prononcer sur les aspects purement politiques.
Politique.
D'accord. Donc, avant de répondre à votre question, pour répondre à votre question, je salue l'initiative de révision de liste électorale. L'essentiel pour nous, les citoyens, que le mécanisme mis en place puisse permettre à chaque citoyen de pouvoir jouir de ses droits. Et si ce n'est pas le cas, il appartient aux décideurs de se pencher sur la question. Nous venons de parler de la participation citoyenne. Et ce serait dommage qu'on viole le droit politique d'un citoyen. Et c'est le citoyen qui confie le pouvoir politique aux dirigeants. Et si déjà, à la base, on lui retire ce droit, ça veut dire que mais tout ce que le pouvoir politique fera, il ne sera pas impliqué. Donc ça, c'est un élément important. Je voudrais revenir un peu sur notre événement. C'est un élément important. Je sais que les gens n'ont pas encore compris ce que nous voulons faire, mais si le gouvernement, comme il le dit, d'abord je tiens à remercier les autorités de notre pays parce que cet événement suscite beaucoup d'adhésion. Moi, depuis que j'ai commencé par organiser des événements au Togo, je n'ai pas pu bénéficier de l'accompagnement technique comme ça. Je voudrais vous rassurer qu'actuellement, il y a 4 ministères qui nous accompagnent. L'événement est parrainé par 2 ministères. Parrainé par 2 ministères. Le ministère chargé de la décentralisation et le ministère chargé de l'aménagement et développement du territoire. Nous bénéficions également de l'accompagnement du ministère de l'Industrie, de la promotion de l'investissement et le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. En dehors de ça, nous avons l'appui du CIS autonome du Grand Lomé, la fêtière des communes du Togo et d'autres partenaires également qui nous accompagnent. Et donc, je me dis que, vu la portée de l'événement, chaque citoyen devait se mobiliser. Et comme je le dis, c'est un événement qui va vraiment aider notre pays. Je voudrais féliciter nos plus hautes autorités d'avoir initier cette décentralisation. Et nous demandons encore une fois leur accompagnement pour que cet événement puisse vraiment nous aider. D'accord. Et ce serait même une référence pour la sous-région. Parce que déjà la communication que nous faisons, hein, c'est que ça va très loin. Et la diaspora aussi également qui s'est mobilisée, a mobilisé les partenaires pour nous. Je pense quand même que c'est un événement de taille et chaque citoyen doit apporter sa contribution.
D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup Pascal Edo à Beauvais. Vous êtes expert et consultant en décentralisation et développement local. Nous allons maintenant écouter nos auditeurs, puisque nos concitoyens sont à l'écoute et nous ont écouté pratiquement pendant une heure de temps. Je sais qu'ils auront des questions à nous poser ou des observations à faire. Nous allons leur donner la parole. Et c'est sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75. Également, ils peuvent nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Nous avons toujours avec nous Pascal Do à Beauvais, expert en décentralisation et aussi en développement local. Premier auditeur en ligne, allô?
Bonjour.
Bonjour, Séné, comment vous allez?
Le messager de l'amour se porte très bien comme un ange au ciel.
D'accord, allez-y.
Je vais aller dans le sens de la décentralisation. Il faut que le gouvernement sensibilise la population et aussi dans les villages, tout ça. Ok, merci. Bonne émission.
Merci beaucoup Océni pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Oui.
Bonjour Pélé.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
D'accord, allez-y.
Et salut notre invité Pascal Agbébé. Que le gouvernement ne veut jamais écouter. Et bon, tout à on écoute dans votre spot de publicité le recensement des entreprises. Mais pour le recensement de la population maintenant, ou bien pour aller aux élections, c'est 2-3 jours. Mais on met des mois pour faire le recensement de ce genre de choses. Mais quelle est la différence entre ce recensement et pour le recensement de la population de plus de 8 millions de Togolais? On veut les recenser, on met un peu de temps pour le faire. Pourquoi? Bon, et ce qui concerne la décentralisation que nous avons dit toujours, je pense que le pouvoir est dans sa logique concernant combien de fois ils ont diffusé le Grand Lomé. Si vous prenez les élections de 1994, après ces élections, en 1994, il devait y avoir l'élection communale. Si cette élection est communale a été faite, je pense que le RPT n'aura aucun maire à Lomé. À partir de là, ils ont commencé par toiletter, à piller, à désorganiser la population, démobiliser tout jusqu'à arriver en 2019, au moment où l'opposition avait boycotté les élections de 2018 et à Kachigeli, ils sont passés aussi aux élections communales. Je voudrais savoir, ou bien le plateau là-bas. Demandez au pouvoir en place, qui est un grand parti, qui veut gagner les élections, n'a qu'à mettre la balle à terre, peser la population et aller à une élection transparente. Je pense que c'est le bon sens que nous tous, nous pouvons partager. Mais s'il faut aller dans le désordre, toujours créer de la zizanie dans la population, ce n'est pas une bonne chose.
Merci pour votre intervention. Bonjour le plateau. En fait, dans mon pays, tout est fait pour servir certaines personnes, pas le peuple. Sinon, voyez le nombre de ministres, gouverneurs, députés et maires pour quelle population et superficie. C'est la mauvaise foi et mauvaise vision de nos dirigeants. Pourquoi ne pas imiter ce qui se fait bien ailleurs? C'est Ibrahim qui nous écrit. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô Pascal.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
C'est Monsieur Abalo.
Ah, c'est Monsieur Abalo.
Je vous appelle d'Agoué.
D'accord, Monsieur Abalo, allez-y.
Vraiment, j'aimerais féliciter votre invité, M. Pascal Dabouvé. C'est un monsieur, quand je l'écoutais sur les médias, vraiment, c'est-à-dire, il me donne, c'est-à-dire, du chaleur au cœur, quoi. On sent que c'est un monsieur qui connaît son travail. Donc, moi, j'exhorte mes maires qui veulent aller, c'est-à-dire, aux prochaines élections municipales qui arrivent là, d'aller à son école. Vraiment, les gens n'ont qu'à aller à son école. On a pris ces élections municipales qu'on a faites le passé là. On a pris des gens qui ne maîtrisent rien. Excusez-moi le mot, c'est comme si on a pris des gens qui s'agit de CP1 pour amener en terminale pour passer le bac. Et actuellement, ils cherchent les voies et moyens, ils fouillent les tomes, ils ne se retrouvent pas. C'est comme un enfant qu'on prend au CP1 pour amener au CM2. Donc, les gens n'ont qu'à aller à l'école de ce monsieur. Si vous regardez, après 6 ans, nos quartiers, nos villes, or, le projet, c'est un bon projet. Sinon, le chef de l'État, si le chef de l'État n'avait pas dit que ça peut contribuer au bien-être de la population, on n'allait pas voter et on n'allait pas accepter cette loi. Et les gens, regardez, vous avez un quartier Semonet, ils viennent verser la terrible avec de faux ingénieurs, ils n'arrivent même pas à aboutir à leur projet. C'est la boue partout, après 6 ans. Vraiment, c'est lamentable.
Merci, monsieur Abalo, pour votre intervention. Et bonjour, Pascal. Et chapeau à vous là-bas. Et vous connaissez le slogan du régime de le chien aboie, la caravane passe, trop de magouilles et du vol dans ce pays. Si le président lui-même ne dit rien à ce propos, le pays ne va jamais émerger. Bonne journée à vous. C'est Jacques qui nous écoute depuis Adido Gomé. 90-86-35-35. Allô?
Oui, allô, Pascal, monsieur Pascal.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur Kokou de Paris.
Ah, monsieur Kokou, allez-y.
Oui, je salue votre invité.
Oui, d'accord.
Je voulais avoir quelques déclarations. Il y a une question de savoir. Nous avons remarqué que il y a bientôt 6 ans que la décentralisation a commencé avec l'élection des maires et consorts. Mais nous avons remarqué que depuis lors, il n'y a jamais eu de bureau du bureau citoyen. Est-ce que lui, en tant que spécialiste en décentralisation, il a remarqué?
Il a remarqué. Et il en a parlé, monsieur Kokou?
Oui.
Il en a parlé dans l'émission, je ne sais pas si vous l'avez suivi.
Excusez-moi. J'ai pris le temps en mars.
Ah, d'accord, je comprends. C'est vrai, il va revenir là-dessus, il n'y a pas de souci.
D'accord,
oui. Merci beaucoup, monsieur Kokou. 90-86-35-35-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler au club de la presse de ce vendredi. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
Monsieur Nyamavo.
D'accord, allez-y.
Oui, dans la distanciation, c'est l'État qui a échoué. Hein. Depuis la délégation spéciale, le meilleur comme tel. Et ils ont essayé de morceler pour fatiguer l'opposition, mais on a fatigué le peuple plus tôt. Et si la population réfléchit bien, ils n'ont qu'à voter massivement l'opposition pour qu'ils puissent centraliser les efforts pour développer les milieux. Merci.
Merci beaucoup, monsieur Nyamavo, pour votre intervention. 90-86-35-35, 91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90-45-78-57. Allô?
Allô, Pascal?
Oui, Basile, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Oui, tout simplement.
D'accord, allez-y.
Bon, c'est les deux que vous avez. Ça tombe bien, j'ai 8 questions pour chacun.
Pardon?
Pour les maires.
Pardon? Non, non, mais
quand chaque matin, notre il va aller sur les médias.
Basile.
Il tape ça. Ouais, alors?
Basile, notre invité, c'est bien monsieur Pascal Edo Agbové. Et nous avons parlé de la décentralisation.
Pour lui, c'est où il en est avec son projet d'investir à partir de zéro là? Et.
Basile, allô Basile.
Oui.
Nous parlons de la décentralisation. Tout au long, vous nous avez suivi.
Oui, mais la décentralisation, c'est toujours dans les investissements, non?
Mais vous nous avez suivi?
Oui, de du début jusqu'à la fin.
Vous nous avez suivi du début jusqu'à la fin?
Oui.
Mais posez des questions conformément à ce que nous avons dit.
Bon, comment lui voir la décentralisation qu'on fait ici au Togo? Parce que nous, on est 56 600 km². On est la moitié du Bénin. La moitié, le Bénin a la moitié des communes que nous, on a ici. Et comment ils voient ça?
Basile.
Ils sont toujours là, derrière le pouvoir, quand ils font les choses pour toujours manigancer.
Allô, Basile.
Oui, merci.
Et je me demande, est-ce que vous nous avez suivi vraiment?
Je vous ai suivi.
Oui, parce que déjà, la question a été répondue même par Pascal Edo Agbové dans cette émission.
Ah, ok, d'accord. Prenez les questions que vous voulez, moi j'ai déjà posé.
D'accord, merci et bonne journée. 90 86 35 35 91 36 63 75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô, monsieur Pascal.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
C'est Natima.
Ah, Natima.
Oui.
J'espère que vous allez bien.
Moi, je voudrais dire ce que l'introduction de Firmin, il dit que Yadema fait rayonner le Togo. C'est bon. Mais dans ce que Yadema fait rayonner le Togo, là, qu'est-ce que les Togolais ont eu comme intérêt là? C'est ça que je voulais dire. Mais je lui dis le chapeau, ce qu'il a dit, que la CENI, vraiment, elle est politisée. C'est ça le mal du Togo. C'est ça. La politique ne cherche pas là-bas. On donne un arbitre pour arbitrer les élections. Et les gens se penchent de l'autre côté, les gens fuient. Et ça fait du mal à la population. Maintenant, les mairies, vraiment, ils ont fait ce qu'ils peuvent, comme vous l'avez dit. C'est bon. Mais moi, j'ai vu que les mairies, la ville de Lomé, ou bien toutes les villes jusqu'à l'intérieur, il y a trop de choses sur les rues. Les panneaux publicitaires, les briques, les pourquoi mettre pour vendre le carburant relâché, tout ça là. Les mêmes, ils voient ça. Mais ils prennent l'argent, ils disent que c'est encombrement de la voie publique. Pourquoi ne pas chercher des endroits fixes pour mettre ces personnes-là? Il faut qu'on puisse mettre au propre et notre pays pour que ça soit bon. Mais les mairies aussi, on a créé tout. Oui, on met investissement. L'argent, ils vont trouver où l'argent. Allez, monsieur Pascal, rentrez dans l'OME, dans le pays tout entier, vous allez voir, les gens souffrent amèrement. On tient un discours que les gens vont aller faire des prêts et ils vont s'installer quelque part pour avoir quelque chose. Hôtel va arriver, la mairie va arriver. Au finish, on ferme. Aujourd'hui, là, je vous assure, dans le pays, ça ne tourne pas l'économie, ça ne va pas du tout. Sincèrement, que le chef de l'État n'a qu'à voir. Et dans tout ça, là, ce qui est la maladie qui dérange le pays, c'est l'alternance. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la misère qui va frapper encore le peuple congolais. Merci et bonne nuit.
Merci nativement pour votre intervention. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Un autre message rapidement avant de mettre fin justement aux interventions des auditeurs. Bonjour Pascal, c'est Kanye Koko Loco, coordonnateur Europe du Centre de Recherche et de Géopolitique Internationale Fimete Kouagbo. Je vous suis depuis Berlin. Vraiment, félicitations pour ce que vous faites et salut aux confrères sur le plateau. Merci beaucoup, notre cher ami Kanye Koko, pour ce message. Alors, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce vendredi. Pascal Edo Agbové, vous avez écouté les uns et les autres. C'est vrai que des gens n'ont pas posé des questions. Il y a certains qui ont fait des observations. Et c'est seul Monsieur Koko qui est revenu sur la question du bureau des citoyens. Et si vous avez quelque chose à rajouter rapidement.
Ok. En écoutant nos concitoyens, on remarque tout simplement que tout le monde souhaite que les choses marchent bien. Et je pense que s'il y a cette volonté de la part des citoyens, c'est un atout pour le pays et les dirigeants devaient prendre en compte les différentes préoccupations. Notre présence ici vise à donner l'information aux citoyens. Vous savez, tout le monde ne peut pas être un chef d'État, ou bien ministre, ou bien député, préfet, sénateur, maire. Mais chacun de nous a son rôle à jouer dans la cité. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les intervenants pour leurs différentes contributions. Et les rassurer encore une fois pour dire, nous devons tous nous mobiliser. il y a toujours quand même cette volonté de mieux faire. Et chacun de nous doit avoir apporté sa contribution. Si nous abandonnons notre engagement citoyen, les choses vont s'empirer. Et c'est pour cette raison que je voudrais les inviter à s'inscrire dans la dynamique citoyenne que nous conduisons actuellement. Il faudrait que les gens soient prêts à agir, à soutenir les bonnes initiatives, devant contribuer au développement de nos communautés à la base. Nous les invitons également à participer à un concours que nous venons de lancer pour les communes de Grand Lomé. Et nous voulons évaluer les communes dans 8 domaines, notamment l'entrepreneuriat des jeunes. Quelle commune a pu mettre en place des programmes de soutien des jeunes en matière d'entrepreneuriat? Il faudrait qu'ils nous donnent leur point de vue. Deuxième chose, l'autonomisation économique des femmes. Quelle commune a pu mettre en place un programme d'entrepreneuriat féminin pour soutenir les femmes? Troisième chose, domaine artisanal. Quelle commune a pu soutenir les artisans que nous avons dans nos communes? Parce que le tissu économique est composé essentiellement des artisans. Quatrième domaine, formation professionnelle. Quelle commune a mis en place des programmes spécifiques de formation des jeunes pour pouvoir valoriser les potentialités économiques? Cinquième domaine, économie numérique. Quelle commune a pu faire des efforts dans le sens de la digitalisation pour faciliter la tâche aux citoyens? Et sixième domaine, activité culturelle loisirs. Aujourd'hui, nous n'avons pas une commune. Est-ce qu'il y a une commune qui a fait la promotion des activités culturelles pendant les week-ends, tout ça, les jeux de loisirs, pour mobiliser les gens, pour créer de la richesse sur le territoire? Septième domaine, infrastructure socio-économique. Quelle commune a pu construire des magasins, des kiosques, des centres d'exposition, installer l'électricité, a mis en place les mécanismes pour que les citoyens puissent mieux exercer leur activité? Et huitième domaine, c'est innovation, développement économique. Quelle commune a pu entreprendre des actions spécifiques qui encouragent la créativité des jeunes, qui soutiennent le développement technologique? Si les citoyens nous donnent ces informations, nous pourrons faire un choix.
Et c'est par quel moyen les citoyens doivent donner?
À travers la plateforme Cloumer qui va contribuer à faire le vote. Donc nous allons balancer ces invitations, en fait, ces plateformes dans les groupes pour que les gens puissent donner leur point de vue. Et à la fin, un jury qui va délibérer et nous allons primer les communes là lors du dîner de gala qui est prévu dans le cadre du Festival international de développement.
D'accord, parce que nous sommes presque à la fin lors de cette émission. Un mot de la fin?
Oui, d'abord, je remercie Canal FM. Bureau du citoyen, c'est une institution que tous les citoyens doivent réclamer dans leur commune. Donc, il faudrait que les citoyens se mobilisent pour aller voir le maire pour dire les tests sont prévus cela. Nous voudrions que vous puissiez mettre en place cette institution qui est un centre d'accueil, d'écoute et de conseil des citoyens. Donc, vraiment, je les invite. Et si nous restons chez nous, nous serons toujours, déçus. Donc, il faudrait que nous soyons des citoyens actifs.
D'accord. Merci beaucoup, Pascal. Gabin?
Oui, merci de m'avoir invité. Surtout, courage à Pascal pour ce qu'il est en train de faire, de ne jamais baisser les bras et surtout que les autorités aussi puissent l'accompagner pour qu'il fasse beaucoup plus un travail de sensibilisation pour les populations.
Merci, Gabin. Oui, Firmin, rapidement.
Félicitations à Pascal à Edouard Beauvais que nous suivons depuis des années. Donc, je l'encourage et je lui demande de multiplier encore ces événements parce qu'il a toujours eu à organiser de grands événements que nous avons couverts, qu'on lui donne assez de moyens pour pouvoir le faire et puis c'est dans l'intérêt de la population. La deuxième chose, je n'ai pas dit que la CENI est politisée. J'ai dit la CENI est politique. Parce qu'il y a les opposants, il y a le parti au pouvoir.
D'accord. Merci beaucoup, Firmin Teko Agbo, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes chroniqueur politique. Merci. Et journaliste aussi. Merci d'être passé. Gabin Adiakou, merci d'être passé.
Merci.
Vous êtes juriste, analyste politique. Merci d'être passé. Pascal Edo Agbouvé, merci d'être passé chez nous. Et merci pour votre diverse contribution à ce débat. Et je rappelle que vous êtes expert consultant en décentralisation et aussi en développement local. Merci d'être passé alors dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoutia. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Vous passez un bon week-end. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.